Bah écoute, sur l'émission d'hier, moi j'ai rien à dire.
Ah bah c'est étonnant ça.
Ah bah je me suis trouvé drôle, juste, pertinent.
Ah ouais, d'accord. Bon, et cru peut-être aussi, non ?
Moi, cru, moi ?
Ouais. Écoute, à un moment, Alex, ça suffit de toujours tout ramener au sexe. Hein.
Moi ?
Tu t'es entendu parler d'autorité ?
Tu veux que je te dise, moi, dans la ville, chef, c'est celui qui a le plus grand zizi. Puis c'est tout.
Y a de ça dans l'autorité, Tom Novembre ? Le chef, c'est celui qui a le plus grand zizi, et puis c'est tout ?
Bien sûr que c'est vrai.
Probablement, oui.
Il le dit.
Le tout est d'arriver à se la comparer.
C'est un problème d'œuf ou la poule. C'est-à-dire que quand vous savez vous-même que vous avez un grand zizi, ça vous donne une autorité naturelle.
Voilà. Merci pour cette brillante intervention, Alex Vizorek.
Moi, je sais très bien de quoi je parle.
Ah bon, ah bon.
Bah, dans notre équipe, c'est qui le chef ?
Ah bah ça, t'as bien fait de pas la faire à l'antenne, je dirais.
Bon, et je suis pas le seul, hein. Parce que André Manoukian, dans sa dernière chronique, il a parlé plus de cul que de musique.
Mais tu sais qu'André, c'est pas pareil, c'est une maladie. Donc.
Ah oui, excuse-moi, mais j'ai relevé tous les moments.
Ouais. Bon, moi j'en ai une zone de plus qui est reliée à ma moustache et qui déclenche une sudation dès que la musique est bonne. Mm-hmm. Bon, moi, vous connaissez, mon truc, c'est plutôt les grosses voix qui vous écorchent la peau du prépuce quand vous les entendez. Tout droit sorti du bayou qui sent bien la foufou. Bah, et là-dessus, il fait monter la sauce.
Monter la sauce, hein, je te dessine pas la métaphore.
Non, c'est, ça va, c'est vrai que ça fait beaucoup.
Ah oui, bah, s'il est malade, il oublie de prendre ses pilules. Hein.
Oui, bon, écoute, quoi qu'il en soit, moi je voudrais que cette émission élève le débat. On a invité un prix Albert Londres, c'est Sœur Chalandon aujourd'hui.
Oui, mais moi, élever le débat, je sais pas faire ça, moi.
Mais écoute, prends exemple sur Clara hier.
En fait, vous pensez qu'il y a une confusion entre du coup autorité et autoritarisme.
Ah voilà, tu vois.
Oh, j'ai pas compris la question.
Non, moi non plus, mais tu vois, à l'antenne, ça claque.
Ok, bon, je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Essayer d'avoir l'air intelligent.
Eh bah, gros défi. Hein.
C'est pas gagné.
Inter, vous écoutez une start-up émission et voici les trois informations qui vont nous permettre de renouer avec l'héroïsme radiophonique. Sommes-nous résignés face à la misère sociale et économique ? Où sont passés les indociles ? Souvent, ils finissent au tribunal. Pourtant, désobéir, c'est entretenir la vie démocratique.
La révolution est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe.
Petit, tout est mini dans notre vie, même les œuvres culturelles, de plus en plus courtes pour capter notre attention, la culture se morcelle.
Efficacité.
Tchac, tchac, tchac.
Tu veux rencontrer un insoumis chaud de ta région ? Prends contact avec Insoumis Love. Et si tu n'es plus tout à fait socialiste et que tu te sens seul, contacte À Mon Amour, le site de rencontre des sympathisants de Benoît Hamon.
J'aime vos seins, enfin, surtout le gauche.
Voilà, ça détend. On prend aussi le droit, c'est Alex Vizorek.
Mais oui, on prend les deux. Bonjour Charlie de Benedaker. Et aujourd'hui, autour de la table, l'équipe type, celle qui a créé Feu Annule Tout, est là pour la première fois dans Paris Jupiter.
C'était l'émission d'avant.
Mais oui. À 17h20, Bernard Lavillier a dit « La musique est un cri qui vient de l'intérieur. » Et c'est justement là qu'il va la chercher. Dans des jeunes chanteuses, c'est André Manoukian. Bonjour.
Bonjour Alex, bonjour Charlie. Mais c'est vrai que je parle beaucoup de cul, mais c'est la musique et l'érotisme, c'est consubstantiel. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un chanteur folk américain qui s'appelle Iron and Wine.
Très bien, 17h30, il va bientôt proposer à France Télévisions un nouveau concept d'émission adapté de Frédéric Lopez. Ça s'appellera Rendez-vous en Terre bien connue. Il retournerait systématiquement au même endroit pour ennuyer les gens. N'est-ce pas Guillaume Meurice ?
Mais oui, bonjour Alex, bonjour Charlie, bonjour à tous. Bah, au MEDEF,
bien voilà.
Évidemment. Je suis retourné suite et fin de ma visite aux universités d'été où j'ai croisé...
des petits méchants et des grands gentils.
Voilà, j'étais à Disneyland en fait.
17h40, celle qui manie si bien la plume que parfois je rêve d'être un encrier. C'est vous Clara Dupont-Mono, bonjour.
C'est dégueulasse.
André, comment ça va ?
De quoi on parle ?
Du livre de notre invité.
Ah bah oui.
Et nous sommes présents dans un monde virtuel sur Twitter, Maudiez par Jupiter, et sur Facebook où vous êtes déjà 150 000
oh là là.
À nous avoir rejoints.
On a fêté aujourd'hui.
Et je me tourne vers celui qui va prendre le leadership de cette émission pendant une heure. À 20 ans, vous entrez au journal Libération comme dessinateur et rapidement converti au journalisme. Vous le pratiquerez pendant 34 ans dans le même journal. Grand reporter, notamment quand ça pète en Irlande ou au Liban. C'est la matière qui nourrit d'ailleurs aussi vos romans. Vous en avez publié 8, dont Une promesse, prix Médicis. Retour à Killybegs, grand prix du roman de l'Académie française. Et le 4e mur, prix Goncourt des lycéens. Vous obtenez le prix Albert Londres en 88 pour vos reportages en Irlande du Nord et pour la couverture du procès Close Barbie. Vous êtes actuellement journaliste au Canard Enchaîné. Oh, faut bien la merde celui-là. Et vous êtes...
J'aime bien le 8 quand même. En 88. C'est vrai, je suis au Canard Enchaîné. Ouais.
Qui êtes-vous ? Dites votre nom.
Je m'appelle Sœur Chalandon.
Ah, mais voilà, mais j'avais reconnu.
Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek,
par Jupiter.
Bienvenue chez nous, Serge Chalandon.
Merci.
Vous publiez chez Grasset, le jour d'avant, votre dernier roman, Le coup de grisou qui a emporté 42 mineurs à Liévin le 27 décembre 1974, voilà l'objet. C'est la plus grande catastrophe minière de l'après-guerre, mais il y a un 43e mineur disparu, Joseph, qui ne fait pas partie du décompte parce qu'il n'est pas mort au fond de la mine. Il est parti en rupin dans les draps blancs d'un hôpital, écrit le narrateur. Et ce narrateur, c'est le frère de Joseph. Leur père est mort en leur laissant un mot qui dit « Venge-nous de la mine ». Voilà, trois petits points. Ensuite, lisez-le. Le 27 décembre 1974, vous avez 22 ans, vous Serge Chalandon, vous êtes journaliste à Libération. Et c'est Serge Julie qui part couvrir le drame. Vous auriez voulu y aller, vous, envie d'y aller. Quand il y a un tel drame et qu'on est reporter, journaliste, et qu'on est à fleur de peau comme vous, ça s'explique comment, cette envie d'y aller ?
Ça s'explique parce qu'il se passe quelque chose dont nous savons tout de suite que c'est une dégueulasserie, c'est-à-dire qu'on entend à la radio, à la télé, je suis désolé, à la télé, à la radio, à l'époque, le mot fatalité. Oh, fatalité, fatalité, la fatalité, oh, les mineurs, ils travaillent, mais il faut qu'ils meurent aussi, parce que la mort fait partie du contrat du mineur. Et toutes ces dégueulasseries-là, donc on les entend, et nous on sait, parce que les informations arrivent, grâce à Serge Julie, grâce au juge Pascal à l'époque, et on sait qu'ils n'auraient pas dû mourir. On sait que ces hommes, ces 42 hommes, sont allés dans une mine qui n'avait pas été dégrisoutée, qui n'avait pas été dépoussiérée. Ils sont rentrés dans un lance-flamme. Et donc ce mot fatalité nous a rendus fous. Et moi, donc je suis jeune, j'ai 22 ans, j'en ai 23, mais enfin bon, c'est quand même c'est vieux. Et c'est la première fois. Pour moi, c'est la première fois que je rencontre ce qui est de l'injustice pure. Et c'est ma première colère. Dans mon souvenir, c'est ma première colère d'homme. Ma première colère d'homme, c'est qu'il est possible de mourir en allant travailler. C'est dégueulasse. Il y a que tu vas travailler, puis tu rentres le soir, bon, tu t'arrêtes dans un bar, tu bois un coup, tu rentres. Mais l'idée de partir le matin et de mourir alors que c'est évitable, c'est la première fois de ma vie entière d'homme, et cette colère-là, et ce socle de colère-là, il m'a duré. Alors après, il y en a eu d'autres. Il y a d'autres injustices, d'autres colères. Mais la première fois où je me suis dit, c'est absolument monstrueux que des hommes qui partent au travail ne reviennent pas parce que tout n'a pas été fait. Alors on peut appeler ça le profit, etc. Mais en tout cas, c'est pas... Et cette injustice-là, je l'ai ressentie, je la ressens encore. Et cette colère-là, elle ne m'a pas quitté.
Et elle est fondatrice chez vous. Et donc ce roman, c'est le reportage que vous n'avez pas fait. C'est aussi votre couverture idéale, je dirais, en tant que journaliste du drame, c'est-à-dire avec cette paire de fictions qui explique aussi ce qui est impossible à expliquer quand on gêne les journalistes, c'est-à-dire qui permet de mettre les pieds là où le journaliste ne peut pas mettre les pieds.
C'est ça, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse dans la fiction, ce qui me plaît, parce que souvent on dit vous écrivez dans des romans parce qu'on n'a pas le droit de tout dire dans la presse, mais si, enfin dans certaines presses en tout cas. Mm-hmm. Au Canard, j'ai le droit de tout dire, et je vous le dis, et c'est important, mais... La seule chose que je n'ai pas le droit de dire nulle part, ni à Libération, ni au Canard, ni nulle part, un journaliste, je pense, il n'a pas le droit de dire « je », il n'a pas le droit de dire « je suis ça, je pleure, j'enrage, j'ai de la haine », il n'a pas le droit. On s'en fout du journaliste. Ce qu'on veut, c'est qu'il parle des larmes des autres, pas de ses propres larmes. Mais mes propres larmes, j'en fais quoi, moi ? Et la fiction me permet, moi, de faire couler mes propres larmes, ou ma colère, ou ma haine. Et là... Je retourne à Liévin, je retourne dans cette catastrophe, je retourne dans celui-là, je suis pas journaliste. Les journalistes, d'ailleurs, je les traite pas très bien dans le roman, ils rôdent oui. comme des corbeaux en disant « Avez-vous perdu quelqu'un dans la catastrophe ?» Je les aime pas quand ils sont
rien
comme
ça. Rien n'a changé, hein, depuis 1974.
Mais je sais, rien n'a changé. Mais en tout cas, grâce à la fiction, moi je peux retourner dans les corons, je peux aller à la mine, je peux aller aux portes de la mine, je peux faire partie d'une famille de mineurs, grâce à la fiction. Et grâce à la fiction, je peux rendre grâce. Et je peux rendre hommage à ces 42 en étant presque l'un des leurs.
Qui sont tous cités à la fin, sur la dernière page du livre.
Et trouver un coupable ?
Alors, vous y êtes parce que l'histoire... Alors, d'abord, je vais vous dire une chose qui est toute bête, mais il faut se méfier des histoires trop belles, toujours. Et là, l'histoire que va vous servir Michel, mon héros, mon ami, mon frangin, celui qui est moi, que je suis lui, donc c'est un peu compliqué, mais en tout cas, le narrateur, ce qu'il va vous raconter, c'est absolument magnifique. Sauf qu'il faut se méfier de lui quand même, toujours, mm-hmm. un petit peu, parce que ça va être autre chose en fait.
Mais, car il y a un rebondissement.
Mais oui, ce que Michel veut faire 40 ans après, puisque nous sommes 40 ans après, il veut retourner là-bas et chercher le coupable qui reste. Et pour lui, qu'est-ce qui reste comme coupable là-bas 40 ans après? Il reste un petit contremaître de rien du tout, un petit chef porion qui est dans une chaise roulante. Il est bouffé par la silicose, il est en train de crever. Mais Michel, lui, ce qu'il pense, ce qu'il croit, ce qu'il espère, c'est qu'en faisant du mal à cet homme-là, pas pour lui faire du mal, c'est pas grave, mais en commettant l'irréparable devant la justice, Michel, lui, le frère de mineur, mort à Liévin, il va être traduit devant les tribunaux. Et ce qu'il espère, ce qu'il souhaite, c'est que de ce procès, de ce petit bonhomme dans sa chaise roulante qui va être maltraité, il va faire le procès de la mine. Mais là, je crois qu'il est en train de se tromper.
Le porion, le contremaître, donc oui. On renoue aussi avec ce mongol englouti de la mine, mais le vocabulaire englouti...
Que vous connaissez bien, je crois.
Eh oui, Alex Vizorek, déjà.
Ben, mon nom de polonais, oui, ils sont venus travailler dans les mines du Borinage.
Voilà.
Alex connaît bien les mineurs, mais...
Alors, justement, même chose, en fait.
Et puis voilà, la ville de la Louvière, que je salue, avec ses corons et ses terris dans lesquels nous sommes nés. Voilà, tout ce vocabulaire, hein, l'échevalement, la taillette, le pain d'alouette, tout ça, on va y revenir avec Clara Dupont-Mono tout à l'heure. En attendant, un peu de musique. On est avec Sorge Chalandon jusqu'à 18h par Jupiter. Il publie Le jour d'avant chez Grasset. Et tiens, il sera au livre sur la place à Nancy.
Et qui d'autre
bientôt
sera là.
Nous serons là aussi.
Bien sûr.
De cette émission, c'est Sorge Chalandon qui est avec nous. Il publie Le jour d'avant chez Grasset. Qui va y revenir d'ailleurs, Alex Vizorek, autour de cette table?
Autour de cette table, énormément de talents, mais très mal répartis entre André Manoukian, Guillaume Meurice et Clara Dupont-Mono.
Voici le journal qui ne respecte rien et surtout pas les horaires.
Moi, je suis socialiste.
Et je l'assume.
Le journal de presque 17h17.
En même temps, d'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste.
Et rien n'a été truqué.
Par les titres.
Le gouvernement a dévoilé ce midi ses ordonnances réformant, transformant le code du travail.
A priori, ces ordonnances sont prescrites du Viagra à Pierre Gattaz, parce qu'il a une sacrée gaule.
Un député La République En Marche frappe un responsable PS à coups de casque.
C'est pas un vrai député La République En Marche.
Ouais, pourquoi c'est pas un vrai?
Il avait un casque.
Ah, voilà. Pas, donc je préfère encore les brèves.
Pardon. Eh ben ça tombe bien, il y en aura.
Formidable. On commence par un hommage.
Oui.
Il y a 20 ans, jour pour jour, disparaissait Lady Di dans un accident dans le tunnel du pont de l'Alma.
C'est très dommage qu'elle ait vécu à cette époque, parce qu'avec Anne Hidalgo, elle serait peut-être encore en vie. Il y aurait eu un bouchon dans le tunnel du pont de l'Alma.
Passons à la politique, avec Emmanuel Macron qui a accordé une très longue interview à l'hebdomadaire Le Point.
22 pages de pensées complexes, avec notamment cette question. Vous voulez passer du modèle d'assurance sociale dit bismarckien, financé par des cotisations, au modèle de solidarité via l'impôt dit beveridgien? Et il répond lui, exactement. Voilà, et tout ça pour la modique somme de 7,40€.
Non, Alex, Le Point, ça coûte 4,50€.
Oui, je sais, mais 7,40€ pour le magazine et la boîte d'ibuprofène, pas mal de
crâne. Emmanuel Macron a notamment expliqué que l'université n'était pas la solution pour tout le monde.
Et effectivement, pour les anges de la télé-réalité, la solution, c'est la CM2.
Revenons donc sur... on dit le CM2, je pense.
Pardon, oui,
c'est on est belge.
C'est un truc de belge.
Revenons donc...
J'essaie déjà de m'adapter, j'aurais dit la cinquième en Belgique.
Le gars est intégré, hein, c'est vous dire. Revenons donc sur cet incident à Paris. Emjid El Guerab, député La République En Marche, a frappé Boris Fort, un responsable PS à coups de casque.
Mais ce qu'on appelle avoir un pète au casque, hein, donc.
Ouais. Et puis en tout cas, entre le PS et les casques de moto, c'est une longue histoire.
C'est une triste histoire. À droite, à présent.
Brice Hortefeux a déclaré: Wauquiez a du Chirac sur la forme et du Sarkozy sur le fond.
Est-ce qu'il essayerait habilement de nous dire que c'est un grand con? C'est une possibilité.
Droite toujours, passons à la conférence de presse d'Edouard Philippe. C'est une nouvelle journaliste qui l'interpelle.
Bonjour, Raquel Garrido pour Les Terriens du Dimanche, sur C8.
Voilà, c'est Raquel Garrido, porte-parole de Mélenchon, hein, donc France Insoumise.
Et on attend avec impatience la réaction de l'éditorialiste politique Cyril Hanouna pour savoir si c'est Darka ou Rasra, cette façon de faire.
Spectacle, toujours.
Oui.
Dieudonné a déclaré qu'il voulait se rendre en Corée du Nord pour la paix.
C'est un petit peu comme se rendre en Arabie Saoudite pour l'alcool.
Ouais, bizarre comme itinéraire de tournée. Tout
oui, ce qui va être bizarre, c'est quand on va voir la photo de Kim Jong-un en train de faire une quenelle.
Ça va être bizarre. Société, selon un sondage, la moitié des Français se déclarent toujours fatigués après les vacances.
Eh bien, ça tombe bien, au rythme où les réformes du code du travail, on en aura bientôt plus des vacances.
Science, des scientifiques ont prouvé que les hommes des cavernes fumaient du cannabis.
Mais non.
Mais si. Et en même temps, vous auriez un ami qui vous dit: je pars chasser du mammouth, puis quand je reviens, je vais dessiner comme un enfant de 5 ans sur ton mur. Tu te dis qu'il en a fumé deux la toute bonne.
Allez, deux petites brèves.
Deux petites brèves, Bretagne.
Il clash les hommes préhistoriques. Bah, attendez, on est où là?
Oui, c'est rigolo.
On en invitera pour qu'ils se défendent.
Mais qu'ils écrivent.
On a
Bretagne.
Un tweet de Lucie. Attention, Bretagne.
Bretagne, un homme interpellé pour s'être exhibé devant des filles mineures. Donc fin de vacances pour Jean-Luc Lahaye.
La dernière, oui.
Et la dernière en Inde. Un homme atteint d'un cancer de la gorge abat le collègue qui l'avait incité à fumer. Comme quoi, faire fumer tue aussi.
Sœur Chalandon, prix Albert Londres, vient de prendre une claque de journalisme.
Il a pris des notes, tout simplement. Hein.
Ce ton est juste magique, quoi.
Vous avez l'air un peu consterné, quand même. Non, on va pas se mentir.
J'étais en train de dire que 1, 2, 3, 4, 5 embauches au canard, ça va faire bizarre. Mais bon, l'administrateur ne le sait pas encore.
On salue le canard. Alors voici ce premier sujet avec vous, puisé dans Libération, que vous connaissez bien. Sous ce titre, citoyens, soyez indociles. Le philosophe Frédéric Gros réfléchit aux raisons pour lesquelles nous semblons résignés face à la violence sociale et économique. Nous tentons d'échapper à notre responsabilité de citoyens, dit-il. Pourtant l'intention est là, hein, de reprendre en main dans nos destins, on le sent bien, hein, illustration au hasard.
C'est quoi ce bordel? On fait la révolution! Ah mais non, mais là c'est pas possible, ils ont fait la chouille hier, ils sont tous au pieu là. Revenez dans une heure pour votre révolution.
Non, une heure, moi ça m'arrange pas du tout, j'ai un baptême après.
Mais c'est quoi ce bordel là? On est là, on gueule, le roi il dit ok, puis c'est marre. Mais je peux rien faire. Ok, on va revenir dans une heure. On va vous niquer, on sera le triple.
Le palmachot, voilà. On sent qu'il y a une envie de renverser la table, mais demain, si possible. Donc, ce sont plusieurs pages dans Libération. Ce matin, citoyens, soyez indociles avec sociologues, philosophes. Vous avez déjà désobéi en tant que citoyen, Sorge Chalandon?
Moi, je viens d'une jeunesse où notre cri de guerre était « on a raison de se révolter ». Donc déjà, vous avez une petite réponse. Ensuite, oui, j'ai désobéi, j'ai été arrêté, j'ai été dans des quarts de policiers, j'ai été malmené, j'ai été interrogé. Oui, j'ai désobéi, mais j'ai désobéi pour une raison toute bête, c'était pas pour désobéir. J'avais peur, j'avais envie que la peur change de camp. Donc c'est étrange d'avoir envie que la peur change de camp. Moi, je me trouvais en face de gens, notamment maintenant, ils sont très policés, les Alain Madelin, etc. Mais à l'époque...
Occident, vous voulez dire, par
Occident,
exemple,
qui est devenu Ordre Nouveau. D'ailleurs, je leur rends un petit hommage comme ça. Ils se battaient très bien, sincèrement.
Ah, c'est vrai. Nunchaku, il y avait une bonne droite.
On avait du mal à avancer jusqu'à eux. Donc on prenait les petits qui étaient sur les côtés. Mais
Madelin n'était pas dans les petits
Madelin, le souvenir que j'en ai, c'est qu'on n'approchait pas vraiment. C'est-à-dire qu'on le voyait de là, on l'insultait, mais on avait du mal à s'approcher, tandis que d'autres, c'était assez simple. Donc oui, notre idée, c'était qu'ils aient peur.
Alors aujourd'hui, semble-t-il, nous sommes davantage résignés. Il y a tellement de motifs de...
Mais attendez juste, qu'ils aient peur, parce que ce qu'ils disaient méritait d'avoir peur. Racistes, antisémites, etc. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on ne discute plus. On ne va pas expliquer que c'est mal de tuer ces millions de juifs, d'accord?
Donc il vaut mieux leur mettre sur la gueule, on est d'accord.
Voilà, il y a un moment donné où ça suffit. Ouais, mais c'est de la violence. Oui, absolument, c'est de la violence.
Gandhi est notre invité jusqu'à 18h. Il a bien changé, vous allez le voir.
Donc, l'objet de ces pages Idées dans Libération, c'est de dire qu'il y a un manque de sursaut collectif, alors qu'il y a aujourd'hui encore beaucoup de raisons de mettre sur la gueule à plein de gens.
Il y a une madeliniste qui voudrait intervenir. non.
C'est vrai, alors quelle est votre hypothèse, vous, sur ce manque de sursaut collectif, si vous aussi vous faites le même constat toutefois?
Alors moi on m'a dit un jour, il y a deux sortes de journalisme dans la vie, il y a le journalisme du savoir et le journalisme du regard. Alors vous avez compris, je ne suis pas celui du savoir, je suis celui du regard, donc c'est pour ça que je ne suis pas éditorialiste, je n'ai pas les lunettes sur la tête pour dire, pour parler du CAC 40, etc., etc. Voilà, je ne sais pas faire ça, mais ce que je sais d'abord, c'est qu'il y a de la peur, c'est-à-dire peur de perdre son emploi, peur de... Il y a une précarité qui fait que l'on est bien au-delà de l'obéissance parce que c'est simple. C'est que d'abord il y a une peur. Ensuite.
Qui est entretenue pour nous maintenir dans cet état de.
De servitude volontaire. On ne va pas aller jusqu'à la Boétie, mais en tout cas oui. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ça nous est arrivé, nous, hein, on charge. Par exemple, une image, on charge. Allez, on charge la police qui est en face. On se retourne, mais il est où le peuple?
Eh oui.
Et on est quatre. Et dans un quart de flic, quatre, ça tient. Un million, ça tient pas vraiment.
Le problème, ça isole, c'est ce que dit
le problème, c'est que le million, il n'est pas là. Voilà, voilà. Donc,
ce
que dit
isolé.
Le philosophe, c'est que celui qui obéit, il est multitude. Celui qui désobéit est isolé. Mais c'est un tel honneur d'être isolé pour avoir désobéi.
Clara Dupont-Monod, vous n'êtes pas d'accord?
Non, juste une petite précision, mais comme l'article et le livre en question partent du principe que nous sommes tous globalement passifs, moi je trouve ça un peu injuste parce qu'en
c'est
fait.
C'est dégueulasse.
Il ignore un peu. En fait, c'est une posture assez romantique et assez facile parce que soyons indociles. Je crois qu'on n'a peut-être pas observé depuis très longtemps un tel mouvement de résistance,
absolument.
Justement, civile, que ce soit en faveur des migrants, que ce soit pour les enfants défavorisés.
Cédric Héroux dans la vallée de la Roya, Nuit debout, qui a fait des sittings pendant.
Mais quantité de même
Snowden,
d'initiatives solidaires.
Exactement. Des petites choses dont personne ne.
C'est phénoménal
ne
ce qui se passe.
C'est-à-dire que.
C'est des micro-résistances.
C'est veut dire qu'une mère de famille qui sans rien dire à personne, elle fait une petite gamelle pour les 300 papiers. Et elle les nourrit dans l'obscurité sans rien demander à personne, c'est une résistance.
Même Clara, elle a souri à un SDF l'autre jour. Tout le monde peut faire.
Mais c'était vous, Guillaume Meurice, je me suis trompée, c'était vous en fait.
Ces phrases puisées dans ces articles qui concluent bien le sujet. Être un sujet politique, c'est d'abord se poser la question de la désobéissance, nous dit ce philosophe qui s'appelle Monsieur Gros. Frédéric Gros. Voilà.
Et parfois, elle est absolument nécessaire. Même désobéir à des ordres criminels, injustes, etc. c'est, enfin, la France est ce qu'elle est aujourd'hui parce que quelqu'un a désobéi.
Georges Chalandon est avec nous.
Belle imitation de Pompidou.
Et à côté de lui, et à la fois il désobéit, et à la fois il fait très long et à contre-courant des œuvres de plus en plus courtes, c'est André Manoukian.
Eh ben moi je pose une question aussi aujourd'hui. Un chanteur de folk, est-ce que c'est encore possible? Et le Larzac, les fromages de chèvre et le macramé, c'est possible aussi? Eh ben justement, il semblerait qu'on y revienne. La vie est une grande roue, Sorge. La sagesse bouddhiste nous enseigne à ne pas courir comme un hamster, mais plutôt à attendre que le cycle ramène sur le devant de la scène ce qui hier était désuet. Alors aujourd'hui, du fait de la consommation digitale de la musique, on peut dire que les modèles, les modes, les tendances, tout ça a joyeusement explosé, au fond, pour notre plus grand bonheur. Un môme peut avoir un coup de foudre avec un grand maître du passé et tracer une voie originale à partir de ce modèle sautant les époques. Et dans ce cas, notre môme, eh ben, il est totalement disruptif avec le cours hegelien de la temporalité de l'histoire. Vous me suivez, Guillaume? Plus simple, vous voyez ma chanteuse préférée, Rosemary Stanley de Moriarty. Ben, on dirait qu'elle a plugué son inspiration dans le Bayou des années 30. C'est souvent par mimétisme...
Elle a branché, vous voulez dire?
Oui, c'est ça. C'est souvent par mimétisme que... Oui, mais je parle de cul, moi, vous savez très bien. C'est souvent par mimétisme que ces choses-là...
Longtemps que vous n'avez pas plugué, mon vrai.
Toi, je vais plugger un truc tout à l'heure, Guillaume, tu vas voir. Et
oh
de là, des années 30, donc de cette manière mi-lyrique, mi-bluesy de chanter, Rosemary Stanley trace sa propre voix. C'est ce que fait notre chanteur folk, Iron and Wine. Il s'est branché sur les troubadours cool des 60s. Mais pourquoi un gars qui avait 20 ans dans les années 90, il a dû souffrir à l'école? En fait, on n'a pas le choix. Le style, c'est une rencontre avec soi-même. On ne choisit pas son costume, mais c'est lui qui vous saute dessus, qui vous enveloppe et qui va déployer ses fibres textiles à travers vos chairs jusqu'à se nicher dans la moelle de vos os pour chercher vos synapses et se pluguer à vos neurones. Et ça y est, vous êtes transformé en Navis. Vous savez, les habitants de la planète Pandora dans Avatar qui vivent en parfaite symbiose avec leur environnement et qui tentent de se défendre face à l'invasion terrienne.
Et qui louent des bagnoles.
Relié à la conscience de l'arbre des âmes. C'est ce qui fait Iron and Wine, de son vrai nom, Sam Bim. En même temps, il n'est pas seul. Les barbus reviennent avant les hipsters et après les mollas. Le nouveau folk américain nous offre depuis deux décennies des Will Oldham, des Bon Iver, des William Fitzsimmons. Mais lui, Sam Bim, qu'on appelle Iron and Wine, il est le fleuron de cette vague végétale et végétarienne. Dans le genre génie de la forêt, lui fait dans le farfadé pluridisciplinaire. Il est à la fois cinéaste, peintre et musicien. Il vit derrière sa barrière de poils qui ondule jusqu'à son cou, dans une cabane en rondin avec sa femme et leurs 5 enfants, rien que des filles, une maison studio dans laquelle il prend son temps pour enregistrer ses albums tranquilles qui sont autant de méditations sur les cycles de la vie. Ah, la cabane du pêcheur au fond du jardin, le rêve de Francis Cabrel, et ben il le vit, lui. Rousseauiste, donc, en plein culte de la nature, il nous sert un folk dépouillé, abreuvé de grand air et de guitare acoustique. Posons-nous tout de même cette question philosophique. La nature est-elle bonne? Elle qui porte en elle les germes de la violence avec le cycle infernal de la chaîne alimentaire, ces animaux qui se bouffent les uns et les autres. Peut-être que nous serons sauvés le jour où nous pourrons tirer notre énergie sans rien absorber d'autre que la lumière du soleil par les grâces de la photosynthèse. C'est prévu. Dans Vendredi ou les lames du Pacifique de Michel Tournier, Robinson, à la fin, il regarde le bateau censé le ramener à la civilisation, assis, nu, sur un rocher, surplombant son île et livré à l'extase infinie de la sexualité solaire. Allez Clara, en attendant, on se déguste un petit coup de Iron and White. And wine.
Thomas County Law's got a crooked tooth. Every traffic light is red when it tells the truth. The church bell isn't kidding when it cries for you. Nobody looks away when the sun goes down. County Road takes you where it will. Someone's singing on the far side of other hills. There's nowhere safe to bury all the time I've killed. Nobody looks away when
Chante Thomas Contillo et c'est André Manoukian qui vient de nous le faire découvrir.
Exactement, il joue ce soir à Nashville, donc au Blue Room. Pour
si on a 5 minutes.
Merci André Manoukian. Il est 17h39 sur France Inter par Jupiter. Il est 17h39 à Liévin, dans les Hauts-de-France, où se passe l'action du roman Le jour d'avant de Serge Chalandon, paru chez Grasset, et la fameuse catastrophe de Liévin, le coup de grisou. On va y revenir avec Clara Dupont-Mono dans quelques minutes. Mais avant cela, Serge Chalandon, il faut passer sur le corps d'abord de Guillaume Meurice.
Oh là là, oui. Université du MEDEF, suite et fin. Bah, c'est vrai que j'aime bien les taquiner, non, je reconnais. Et à force, on finit d'ailleurs par bien aimer les gens qu'on charrie comme ça en permanence et qu'on fréquente beaucoup. Par exemple, Clara, voilà. Non, mais c'est vrai.
Je la charrie beaucoup. Vous devenez vraiment prévisible.
Mais vous savez bien, Clara, que je vous aime d'amour. Voilà, ça je vous le dis. Ça. Et qu'un jour, oui, Clara, je céderai à vos avances sexuelles. Quand vous enlèverez ce tatouage I love Pierre Gattaz sur votre pubis. Voilà, on en rediscutera. Et justement, tiens, comme je parle de Pierre Gattaz, bon exemple de personne que je charrie mais que j'aime vraiment d'amour. Et Pierrot, bah, il part du MEDEF, c'est fini. Et fin de mandat, c'était ses dernières universités d'été. Et c'est évidemment beaucoup de tristesse, parce que le MEDEF, avant tout, c'est quoi?
Il y a un mélange d'économie, de philosophie, d'humanité et de joie et d'émotion. Et
donc, je trouve... Le MEDEF, c'est tout ça?
Oui.
Ouais, philosophie, humanité, joie.
Humanité, joie,
émotion. C'est vrai que quand on entend ça, on pense tout de suite MEDEF. Voilà, on pense, c'est vrai, on pense Pol Pot aussi. Voilà, on pense Robert Ménard, mais on pense MEDEF, c'est au choix.
Touchez ma bosse, monseigneur.
Pas le physique, attention. Non, attention.
Jamais.
Non. Mais sauf pour Gattaz, on a le droit un petit peu. C'est l'esprit, en tout cas, c'est l'esprit, Pierrot. Pierrot Gattaz, qui, on l'a appris d'ailleurs dans le Canard Enchaîné, donc le journal de notre journalope d'invité. on peut dire les mots.
Les merdias.
Pierre les merdias, exactement. Pierrot va couler une heureuse retraite dans un château à 11 millions d'euros. Alors pourquoi?
C'est parce qu'il le vaut bien.
Vous pensez? Il vaut 11 millions, Pierre Gattaz?
Et je pense beaucoup plus encore.
Et bien évidemment, et moi je pense qu'il vaut plus que Neymar, Pierrot. Quand je vois le regard des gamins quand ils croisent Pierre Gattaz, les étoiles qui sont dans les yeux, les gosses. Bon, c'est pas des étoiles, c'est des dollars, mais c'est pareil. Ils ont des casquettes MEDEF, des t-shirts, je veux une cicave et un retour sur investissement à taux de charge constant. Il fait rêver, quoi, le gars. Donc il vaut plus que son château à 11 millions. Et puis, je vais vous dire...
Bah, le prix de l'immobilier a beaucoup évolué.
Ah voilà, c'est ça.
Des maisons à 11 millions, en fait, il y en a beaucoup en France. Et donc...
Est-ce que vous comprenez que ça peut choquer?
Non, je comprends pas bien la question.
Non, mais moi non plus, je sais même pas pourquoi je l'ai posée. Non, mais je m'excuse, parce que je bosse à France Inter, donc je croise des gauchistes toute la journée, comme Léa Salamé, Dominique Seux. Puis là, il y a Natacha Polony qui débarque, donc je te dis pas les gauchias qu'il va y avoir là-dedans. Bon, alors, on n'allait pas se quitter comme ça avec mon nouvel ami. On a parlé sociologie, on a parlé mérite.
Personne mérite autre chose que son sort. Et après,
ça voudrait dire qu'un SDF mérite son sort.
Je pense qu'on a mieux à faire que d'entretenir une pseudo-lutte des classes là où on a besoin de faire du développement et du partage.
Voilà, le MEDEF qui nous parle de partage, et c'est vrai qu'il faut du partage. On peut s'entraider, moi je vois quand j'ai coulé le joint de culasse de ma Jaguar, il y a Charles-Henri qui m'a prêté sa BM directement, c'est le partage. Et puis la lutte des classes, c'est plus quand on hésite entre HEC et les Jésuites, quand on parle de l'avenir de Marie-Sophie, mais c'est du partage. Il ne faut pas être aigri. En France, je vais vous dire, le problème, c'est qu'on n'aime pas la réussite, et puis c'est tout.
La réussite, c'est toujours suspect, quoi. Hein. Donc, moi, ça, non, moi, je trouve ça bien. Puis bon, avoir un château ou un vignoble, c'est un vrai boulot. Hein.
Ça, c'est vrai, il faut du courage pour avoir un château.
Oui, aujourd'hui, ouais, c'est vrai. C'est pas forcément un investissement extraordinaire non plus.
Non, 11 millions d'euros, attends, on va pas déconner avec ça. Non, mais vous savez, non, mais attendez, vous me barrez, vous savez pas ce que c'est. Vous habitez dans votre bidonville à Saint-Germain-des-Prés. Vous savez pas ce que c'est que le rythme d'un château, hein. Château boulot dodo, comme on dit chez nous. Hein. Et puis à un moment, excusez-moi, bon, excusez ma vulgarité, mais flûte, quoi. Posons-nous les vraies questions sur l'argent.
Mais est-ce que ça rend heureux?
Vous pensez qu'il va être malheureux dans son château?
La richesse n'est pas que financière, n'est pas que matérielle. La richesse est en nous, elle est dans ce qu'on en fait.
Et est-ce que la richesse, c'est dans la tête?
La richesse, c'est un point de vue aussi. Mais inversement, je vois des gens qui sont très très pauvres, je vois souvent dans les pays en développement. Et en réalité, ces gens sont riches d'un tas de bonheur.
Mais bien sûr, ce sont des gens qui n'ont rien, mais qui sourient à la vie. Et c'est ça la vraie richesse. Moi, la dernière fois que j'ai été en Afrique, ça m'a fait réfléchir. J'ai écrit à l'UNICEF en rentrant et je leur ai dit « Arrêtez de gâcher leur bonheur en leur envoyant des médicaments et de la bouffe. Ils vont devenir riches et malheureux. » Et ça, Pierrot, il va devoir faire attention à ça. Pierrot, bon, je vous le dis, j'ai eu quelquefois la chance de l'interroger sur cette antenne. À chaque fois, c'était des grands moments. Et bien là, je l'ai croisé. Pour une dernière déclaration.
Monsieur Gattaz, bonjour. Vous avez une petite minute.
Non. Voilà, c'était, c'était certainement son dernier mot à mon micro. Voilà, le même mot que quand on lui demande s'il faut augmenter le SMIC. On lui souhaite une bonne et heureuse retraite à Pierrot.
Guillaume Meurice, merci.
Vous n'allez pas me croire, hashtag par Jupiter. Je suis à Nashville. Merci pour la recommandation. Ce soir, je serai au Blue Room. Team Wild.
Pour écouter Iron and Wine que nous avait présenté André Manoukian. C'était quand même fort. Par Jupiter, Serge Chalandon est avec nous. On va reparler du jour d'avant. Votre roman paru chez Grasset. D'ailleurs, il est 17h44 à Saint-Val-les-Mines.
Bah oui, mais je vais plomber l'ambiance là, parce que l'on se marre bien quand même.
Non, vous inquiétez pas. Non, mais ça, c'est la douche écossaise chez nous. Je vais vous le dire. Alors, on va d'abord faire un deuxième sujet.
L'ascenseur émotionnel.
C'est ouais. La culture. C'est la vie, hein. Rire et pleurer. Ouais, la culture produit des œuvres de plus en plus courtes. Alors, pour être concise, je m'en remets à Télérama et je cite « L'accélération du monde conduit à un morcellement de la consommation culturelle et par conséquent de la production culturelle elle-même jusqu'à certains extrêmes. »
Bon alors voilà, l'idée elle est simple. Donner accès à la culture jusque dans les toilettes. Et ça, grâce au papier culturel. Je m'explique. Aujourd'hui, tu vas aux toilettes, tu pousses et ça s'arrête là. Avec le papier culturel, tu fais ce que t'as à faire, mais en même temps, tu réfléchis. Alors, ce que je propose, c'est d'utiliser la surface vierge du papier toilette. On a juste à y imprimer des reproductions de tableaux, des personnages célèbres, des citations. Pour les amoureux de la littérature, des poésies de Victor Hugo. Bref, on peut tout imaginer avec le papier culturel.
Pierre-François Martin Laval dans Les meilleurs amis du monde. C'est un sujet qu'on va faire court, hein, pour être en accord avec le fond et la forme. Tiens, déjà, au fil de votre carrière, 34 ans notamment à Libération, de grands reportages, vous avez écrit des articles de plus en plus courts. Vous avez vu cette...
Non, ce que je sais, c'est qu'il y a de moins en moins d'argent, donc on nous envoyait de moins en moins loin, etc. Mais on pouvait encore faire des articles très très longs. Moi, je vois 21 qui existent, et donc oui. Une belle revue. Mm-hmm. Enfin, je préfère 21 aux 146 de Twitter.
Est-ce que c'est une mauvaise pente de faire plus court, dans les, par exemple, dans les films, les vidéos, éventuellement les ouvrages?
Non, je pense que des fois, c'est encore trop long. Mais, mais je pense que lorsque ça doit être long, il faut que ça soit long. Je ne veux pas parler du canard tout le temps, mais c'est important. La page 2, les petits échos sont percutants. Et les minimars. Ah, je vois que vous êtes du côté ça.
Oh là là, dites donc, c'est ma Bible.
Les minimars, etc., sont courtes et doivent être courtes. Je veux dire, voilà, autrement, ça n'a absolument aucun sens. Mais il y a des grands papiers idées, par exemple, dans certains autres journaux. Moi, j'en ferai une minimar.
Un bon aphorisme vaut mieux qu'un mauvais roman, quoi.
Absolument.
Ça peut très bien.
Mais je vous rappelle que je suis là pour un roman, pas pour un affaire.
C'est vrai, c'est vrai. Une réaction autour de cette table sur la. Vous avez remarqué peut-être ou pas
bah, j'ai du mal oui, à faire court, donc.
Justement, j'allais me tourner vers vous.
Il y a des bonnes choses, il y a les TEDx qui sont un peu une mode, mais qui finalement sont pas mal.
Ces conférences.
Voilà, c'est des conférences qui.
20 minutes.
Voilà, de 20 minutes maxi. Alors ça, Dédé, c'est mort, vous ne pourriez jamais faire ça. Mais qui explique un domaine précis, quelqu'un vient s'exprimer, un expert, un spécialiste.
C'est là où la fonction des séries est très importante parce que les séries c'est exactement l'inverse. Les séries c'est vraiment le temps long
avec la consommation courte à une demi-heure.
Mais regardez le phénomène des binge watching qui fait
consommation morcelée
mais qu'on s'envoie, qu'on est capable de s'envoyer en plusieurs heures et de rester vissé sur le canapé en prenant c'est un peu paradoxal parce qu'on prend le temps d'aller vite en réalité. On ingurgite toutes les séries, mais n'empêche que les séries, le principe d'une saison c'est au moins 10 épisodes. On est dans un temps plus long quand même.
Moi, je vous écouterai pendant des heures.
Serge Chalandon.
C'est juste que, en même temps, je trouve que tout journaliste ou tout écrivain devrait se dire il y a trop de mots. Il y a trop de mots.
Il y a toujours moyen de dégraisser le mammouth.
Mais toujours. Mais il faut écrire, puis il faut relire, puis il faut couper. Ouais. Il faut arriver à l'os.
Et Télérama nous rappelle que cette notion de morceler et de faire plus court est toute relative. Je vous renvoie à La culture façon puzzle dans le Télérama qui vient de sortir. Clara Dupont-Monod, revenons-en au roman de notre invité Serge Chalandon le jour d'avant.
Oui, c'est notre actualité justement, Charline. Votre roman Serge Chalandon s'appelle Le jour d'avant. Et alors, c'est un roman en forme de grande question, parce qu'en fait, il interroge plein de choses. Il interroge le mensonge, la famille, une certaine folie, la justice, et il interroge la mine. La mine de Liévin, mais finalement qui incarne toutes les mines du monde. Et la mine, c'est même peut-être le grand personnage central de votre roman, au même titre que Michel, le narrateur. Et d'ailleurs, l'histoire de Michel et de la mine, c'est presque une histoire de couple. À un moment, il veut la rejoindre et c'est pas possible, puisqu'il est trop jeune pour aller y travailler. Il la fuit, elle le rattrape, elle lui pourrit la vie et il pleure. Et d'ailleurs, le père de Michel dit à un moment « Tu n'iras pas au charbon, tu iras au chagrin. » Parce que la mine est une épouse vorace. C'est une espèce d'ogresse, une ogresse des contes qui dévore même les enfants sages. En un mot, la mine, elle mange. Le puits avalait des hommes par bouchées de 20 et de 30 et d'un coup de gosier si facile qu'il semblait ne pas les sentir passer, écrit comme par hasard Émile Zola dans Germinal.
Oui, je me disais, tiens, je ne connais pas.
Non, c'est pas vous, c'est Émile Zola. Mais, c'est l'idée d'ingestion qu'on retrouve et qu'on retrouve aussi dans votre livre. La mine, c'est un organisme qui digère, ça on l'a dit, mais parfois elle recrache. Votre roman s'appuie sur la catastrophe réelle du 27 décembre 1974 à Liévin, où cette fois la mine a octé et rendu 42 morts, dont, croit-on d'abord, le frère de Michel, votre narrateur. Alors du coup, évidemment, la mine, elle inspire la peur. C'est pas pour rien qu'au Moyen-Âge, dans le folklore minier nordique et germanique, on pensait que les mines étaient peuplées de tout petits êtres qu'on appelait des kobolds, qui étaient des petits nains maléfiques, et on pensait que c'était eux qui déclenchaient les accidents ou qui volaient le minerai d'argent pour le remplacer par ce qu'on a appelé du cobalt, en référence justement au kobold de ce folklore médiéval. Donc pour résumer, la mine, elle a quelque chose de monstrueusement mythologique, et c'est pour ça aussi que Michel n'arrive pas à s'en dégager, et c'est une force qui confisque la lumière. Quel est l'endroit où Michel garde ses souvenirs? Dans un box fermé. Et qu'est-ce qu'il fait quand il arrive dans son appartement à Saint-Vaast, dans le livre? Il n'ouvre pas les volets, il reste dans le noir. Donc la mine, elle prive les hommes de lumière, exactement comme les dieux de l'Olympe gardaient le feu pour eux, en privait les hommes de lumière, et c'est Prométhée qui ira voler donc le feu pour le donner aux hommes. Et puis la mine, elle a aussi un autre pouvoir, c'est celui de salir. Elle recouvre. Un de vos personnages dit « Même si le mineur est décrassé, il rapporte le charbon en surface. Il lui en reste dans les cheveux, dans le nez, au coin des yeux, entre les dents. La mine a pris la place de l'air dans ses poumons. » Comme si la mine se vengeait. Vous avez voulu entrer en moi, eh bien c'est moi qui entre en vous et qui vous tue, dans une espèce de va-et-vient mortifère. Et même éteinte, même hors d'usage, elle continue à tuer, Michel en est la preuve, et cette malédiction post-mortem, Jules Verne, en fait, l'a sublimé dans son roman Les Indes Noires, paru en 1877, parce que c'est quand même l'histoire d'une vieille mine désaffectée d'Europe et qui fait flipper tout le monde parce que la nuit, on entend des coups de marteau qu'on tape dans la mine et on voit des lueurs qui effraient tout le monde. Donc, sous couvert d'intrigues policières, ce que dit Jules Verne en réalité, c'est « fermez toutes les mines que vous voulez, de toute façon, son pouvoir de nuisance n'aura que faire des verrous. » La mine, elle rongera, de toute façon, et ça, Michel en est la preuve, c'est ce qui lui arrive. C'est un homme, en fait, vaincu par les entrailles du sol, et en même temps, comme tous les vaincus, il est vainqueur, puisqu'il devient personnage de roman. Dont je vous rappelle les références, Le jour d'avant de Sorge Chalandon est paru chez Grasset.
Merci Clara Dupont-Monod. Et tiens, en hommage à votre aïeul mineur, Alex Vizorek, un petit passage.
Ah, moi je voulais lire, oui, un petit passage. C'est-à-dire que c'est le père qui est paysan et qui ne veut pas que son fils y aille. Alors il lui dit, mais les mineurs, on les reconnaît. Et le cadet, narrateur, dit, bien sûr qu'il les reconnaissait. Tout le monde savait. Au pas heurté d'un homme qui avait passé sa vie à la taille, on l'identifiait à sa respiration de poisson échoué sur la grève, à ses tremblements, ses gestes lents, son dos saccagé, ses yeux désolés, à ses oreilles mortes. Et aussi à sa fierté, a ajouté mon frère d'une voix douce.
Merci Alex. Il est 17h52 dans les Houillères et à Los Angeles. Merci Clara. Et on peut évidemment réécouter votre chronique sur franceinter.fr pour s'en redélecter.
Absolument. Et Meurice le fait régulièrement avant de s'endormir.
Bien sûr.
Oui, ça m'endort d'ailleurs.
Ce dernier sujet avec vous. Les sympathisants de Benoît Hamon se réunissent pour débattre, discuter des programmes et plus si affinité grâce au site amonamour.fr. 1500 abonnés. Ils mettent en relation les sympathisants célibataires. Les insoumis aussi ont leur site de rencontre. Insoumis Love, 5000 abonnés. Mais qui a donc bien pu pondre cette idée? Nous l'avons retrouvée.
Parce que moi je peux faire des grandes choses avec mon cul, tu sais. Mais regarde, quand on discute avec quelqu'un qui est pas d'accord avec toi, on n'arrive jamais à le convaincre. On y arrive beaucoup mieux par le sexe, le premier. Viens, je t'ai ramené mon cahier. Regarde lui par exemple. Quand je l'ai rencontré, il était le responsable jeunesse de la section UMP du Pas-de-Calais. Et regarde la tête qu'il a maintenant. Il élève des moutons dans le Périgord. C'est pas génial? Lui, c'était un vieux boursicoteur de merde. Et ben maintenant, il fait des crêpes sarrasin. Lui, il était président d'un club de quad. Maintenant, il fait de la capoeira.
C'est Sarah Forestier, la coupable, dans Le Nom des gens, bien sûr, avec Jacques Gamblin.
Et Lionel Jospin.
Et Lionel Jospin, qui fait une apparition, c'est très juste. Sorge Chalandon, en tant que journaliste, est-ce que c'est un sujet susceptible de titiller votre curiosité? Ce qui paraît tout à fait insolite, la création de sites de rencontres de sympathisants d'un parti, donc il y a chez Benoît Hamon. Et alors remarquez, ça se passe à gauche, hein. C'est chez les Insoumis, chez Benoît Hamon. Est-ce anecdotique ou il y a quelque chose à en tirer?
En tant que journaliste, je pense qu'il y a quelque chose à en tirer, mais sans trop sourire. Mais en tant que militant, moi j'ai été militant. On draguait dans les meetings, quoi. Je veux dire, on n'avait pas besoin d'avoir un site de rencontre.
Mais c'est pas horriblement triste de draguer quelqu'un qui est d'accord avec vous?
Alors voilà, le souci, c'est
le désir, mais si... il naît de justement de la confrontation.
Oui,
et de...
oui, en même temps. Oui, oui, alors d'accord, mais en même temps.
C'est vrai. Il y a rien de plus ennuyeux que le semblable.
Oui, mais en même temps, tu es à table avec Valérie que tu viens de rencontrer, puis il dit, ah, puis moi j'adore Martin Bormann. Toi, t'as un autre problème aussi. Donc,
déjà, tu sais pas qui c'est.
Elle ne sait pas.
Tu dis, j'écoute pas France Culture. Excuse-moi, Valoche. Et tu vas reprendre tes affaires, tu dégages.
Non, je peux comprendre qu'il y a un moment. Mais non. Enfin, moi, j'étais dans des meetings, c'est à force de tracter, de voir Madeleine et tout ça, que tout d'un coup, tu te dis, oh, qu'est-ce qu'elle se bat bien, celle-là? Puis en plus, les filles couchaient avec le Rangers à l'époque parce qu'il fallait être prêt tout le temps. Mais quand même, mais oui, c'est vrai.
Mais la belle époque, ça a beaucoup de charme.
Oui, mais l'idée de m'inscrire pour être avec celles qui ont voté, qui ont eu 6%, ça me, je sais pas, moyen.
Ah oui, c'est
sûr. Il y a eu des tentatives, il n'y a pas que la gauche, il y a eu des tentatives au Front National. Il y avait des sites de rencontres patriotes. Ouais, exactement. Ouais. Il y en a eu partout, en fait.
Et là aussi, avec les Rangers, on dort.
Je crois que ça s'appelait Patriotes Musulmans ou je. Ah non, je crois que je me trompe.
Sorge Chalandon, vous avez un talent caché, celui de comédien, nous en sommes persuadés.
Alors, en fin d'émission, on propose un sketch à l'invité. Il ne peut pas refuser parce que je vois que vous êtes en train d'hésiter. Alors, la thématique du jour, c'est qu'à Paris, on a ouvert la première zone naturiste dans le bois de Vincennes. Et on s'est dit, on va envoyer Sorge Chalandon avec son ami Guillaume Meurice pour voir comment ça se passe là-bas.
Alors, moi, je suis jaune.
À vous.
Ah, c'est bien, dis donc.
Ah, c'est beau, Paris, hein.
Mais on en profite mieux à poil.
Ouais, moi j'aime bien quand l'air pollué me caresse la teub.
on est à la fraîche, quoi.
Ouais, et en novembre, on sera encore plus à la fraîche, du coup.
Hein. Salut les mignons.
Vous êtes qui?
Moi, je m'appelle Josiane. Mais en fait,
Oui, Josiane.
Je découvre le texte en même temps que vous. Je m'appelle Josiane, mais on m'appelle Josie la Galipe.
Oui, bonjour, bonjour madame.
J'ai quitté le bois de Boulogne pour celui de Vincennes.
Et pourquoi?
Bah, il n'y a qu'à vous regarder. Hein.
Je comprends pas.
Bah, ouais. Disons que dans le cadre de mon travail, votre tenue est un grain de temps non négligeable.
Ah, non, c'est gentil, oui, je vois, mais non. Non.
Mais en fait, on est tous à poil pour le plaisir. Hein.
Ouais, ah, bah ça. Merci les gars, vous brisez le métier, hein. Je vais me plaindre à dodo. Hein.
Passe-moi la crème solaire.
Mais ça en vient partout.
Oh, regarde là-bas, c'est Robert Rochefort, là, du Modem.
Et comment tu le connais?
Bah, c'est le seul qui fait du naturisme avec une perceuse à la main.
Et c'est quoi là-bas?
Là-bas, c'est le cours de chant, ça.
Le cours de chant naturiste?
Naturiste, c'est André Manoukian qui a proposé.
Et là, c'est le cours de cinéma?
Ah non, ça c'est Jean-Marc Morandini qui fait les castings.
Ah, oui, je suis con. Ouais.
Bonjour les gars, petite pièce.
Ah non.
Bah, je vous dégoûte?
Non, mais vous êtes habillé?
Bah oui, vous pouvez pas rester ici.
Ah, mais je suis SDF.
Oui, oui, bah vous êtes habillé.
Non, mais c'est mes seuls vêtements.
Mais ça fait trop de trop.
Voilà. Allez dormir ailleurs, monsieur.
Bon,
voilà. Je t'avais bien dit que c'était des tocards. Viens, mon loulou, moi je te fais une réduc.
Bon, alors qu'est-ce qu'on fait?
Bah, on se fait un badminton?
Un super idée, mais.
Quoi?
Il n'y a pas de raquette?
Ben non, mais j'ai un petit volant.
Et?
Eh ben, pas besoin de raquette, c'est plein d'avantages au naturisme.
C'est vous, Zora, qui écrit les textes, il faut le dire.
Ça allait compenser avec la mine.
Oui, jamais ouais. L'expression douche écossaise n'a aussi bien caractérisé notre émission.
Effectivement, Sir Chalandon, donc dans le rôle du naturiste, Sir Chalandon, prix Albert Londres 1988, prix Médicis, bien sûr, voilà. Auteur de romans, auteur du Jour d'avant, paru chez Grasset, auteur de renom qui jusque-là était respecté par toute la profession.
Si Alain Madelin a écouté, il doit se foutre de votre gueule.
Merci, Sir Chalandon. Je rappelle aussi qu'on vous retrouve toutes les semaines dans Le Canard, qu'on attend à chaque fois avec impatience, tous les mercredis. Le Jour d'avant, c'est paru chez Grasset, on vous le recommande chaleureusement. Et vous serez au Livre sur la Place à Nancy pour signer. Et tout comme nous d'ailleurs, vendredi 8 septembre.
On signe pas, on fait l'émission, nous.
Bonjour aux Hauts-de-France, au Nord-Pas-de-Calais, comme on disait, aux Houillères.
Moi, je vais jouer à Liévin bientôt. Donc,
placement produit.
Bah, allez, non, mais... c'est la fin de cette émission, merci. Et le mot de la fin, nous le dédions au savoir-faire journalistique de celle qui nous succède à l'antenne, le savoir-faire de Fabienne Sintès.
Efficacité, tchac, tchac, tchac.